Le journal Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le débat sur le Brexit enflamme le Parlement britannique. Theresa May défend bec et ongle le projet d'accord, mais quatre de ses ministres ont déjà claqué la porte du gouvernement. Nous ne sommes pas au bout du chemin, reconnaît le négociateur Michel Barnier. La justice et la diplomatie saoudienne dédouanent le prince héritier Mohamed Ben Salman dans l'affaire Khashoggi et Riyad refuse l'enquête internationale demandée par la Turquie. Manifestation d'avocats et de magistrats devant le palais Bourbon contre la réforme de la justice. Ils dénoncent un projet purement gestionnaire et craignent que l'accès du justiciable à un juge ne devienne de plus en plus complexe. Enfin, Georges Dron acquitté des accusations de viol sur d'anciennes employées de la mairie de Draveil. La cour d'assises de Bobigny estime que les scènes à caractère sexuel sont avérées, mais que les plaignantes n'ont pas apporté la preuve de la contrainte. Quatre démissions de ministres et la demande d'un vote de défiance au Parlement contre Theresa May. Le projet d'accord sur le Brexit, défendu par la première ministre britannique, a déclenché une crise politique d'ampleur au Royaume-Uni. Theresa May a malgré tout maintenu le cap aujourd'hui, tentant de convaincre les parlementaires que le compromis négocié était le meilleur que son pays puisse obtenir. Le reportage d'Antoine Gignot à Londres.
Elle a passé 3 heures à la Chambre des communes, Theresa May. 3 heures à écouter les critiques des députés de tous bords. 3 heures à tenter de défendre son projet d'accord avec l'Union européenne sans trouver véritablement de soutien. Beaucoup d'eurosceptiques réclament maintenant une motion de défiance à l'égard de la Première ministre, comme Jacob Rees-Mogg, l'un des chefs de file des eurosceptiques.
Ma très honorable amie a dit qu'on allait tuer l'Union douanière. L'annexe 2 dit l'inverse. Ma très honorable amie a dit qu'on allait conserver l'intégrité du Royaume-Uni. L'ensemble de ce texte dit l'inverse. Ma très honorable amie a dit qu'on allait sortir de la zone de compétence de la Cour européenne de justice, l'article 174 dit l'inverse, alors ce que ma très honorable amie dit ne colle plus avec ce qu'elle fait.
Épreuve de la faiblesse de la Première ministre, Michael Gove, l'un des derniers partisans d'un Brexit dur encore au gouvernement, dit ouvertement dans la presse qu'on lui a proposé de prendre en main le dossier du Brexit, mais qu'il ne le fera qu'à une condition, l'annulation de l'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles. Du côté de l'opposition, c'est encore pire, avec une charge violente de Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes.
Le projet de sortie de l'Union européenne est un gigantesque et dangereux échec. Après 2 ans de négociations ratées, le gouvernement nous présente un accord qu'il a bousillé, à moitié bousillé, qui ne tient pas compte des lignes rouges que la Première ministre a elle-même fixées. Le gouvernement est dans une situation chaotique.
Difficile de dire pour l'instant si Theresa May va réussir à sauver sa tête. Elle a convoqué la presse au 10 Downing Street. Elle pourrait décider de partir avant d'être poussée dehors par son propre camp.
C'est la cacophonie au Royaume-Uni, mais rien n'entame le flegme du négociateur en chef pour l'Union européenne, Michel Barnier. Devant le Parlement européen, il a souligné l'avancée que représentait l'accord obtenu avec les Britanniques, passant sous silence les démissions en cascade outre-Manche et reconnaissant tout juste qu'il y a encore du travail.
Nous sommes à un point important de cette longue et extraordinaire négociation. C'est un point important parce que c'est celui qui permet de construire la base de la confiance dont nous avons besoin pour bâtir la relation future. Bâtir ce qui est le plus important que la séparation. C'est un partenariat ambitieux et stratégique dans tous les domaines identifiés dans la déclaration politique en commun avec les Britanniques. Nous ne sommes pas au bout du chemin et nous savons bien qu'il reste beaucoup d'étapes de part et d'autre dans le processus de ratification. Donc nous allons rester très calmes, nous allons rester très méthodiques dans notre démarche et travaillant dans ces prochaines étapes avec un souci qui est le mien depuis le début. Le Royaume-Uni, malgré et au-delà de la séparation, reste un très grand pays et restera en toute hypothèse un pays ami, allié et partenaire de l'Union européenne.
Michel Barnier au micro de Johanna Hochstein à Bruxelles. Et plusieurs États membres demandent déjà une modification du projet d'accord rédigé par les négociateurs européens et britanniques. Le Danemark, la France, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal notamment espèrent obtenir des améliorations sur la pêche. Ils aimeraient que le texte protège davantage leurs pêcheurs. En Autriche, l'opposition se rassemble tous les jeudis depuis plus d'un mois pour protester contre la politique menée par la coalition au pouvoir, Alliance des conservateurs et de l'extrême droite. Une nouvelle manifestation est prévue ce soir à Vienne, d'autant qu'une loi votée il y a quelques jours fait polémique. Elle prévoit, à compter du 1er janvier prochain, d'indexer les allocations familiales sur le niveau de vie du pays d'origine des travailleurs étrangers s'ils ont laissé derrière eux leurs enfants dans un autre État de l'Union européenne. Une mesure inédite en Europe et que la Commission européenne surveille de près. Reportage d'Isorias à Vienne.
Avec cette loi, l'Autriche veut économiser 100 millions d'euros par an sur les 250 qu'elle verse chaque année pour des enfants vivant à l'étranger. Cette mesure vise en grande majorité ses pays frontaliers, Hongrie, République tchèque, Slovénie, mais aussi Slovaquie, dont Dana Cardozova est originaire. Elle travaille à Vienne comme aide à domicile. L'allocation pour son enfant resté à Bratislava baissera de 70 euros par mois.
On paie les mêmes taxes que les Autrichiens. On devrait donc recevoir les mêmes prestations. D'autant qu'en Autriche, il y a un grand besoin de personnel soignant, mais avec cette mesure, certains pourraient être incités à ne plus venir travailler en Autriche.
Indexer les allocations familiales est contraire au droit européen, a expliqué la Commission européenne, qui annonce qu'elle pourrait enclencher une procédure d'infraction contre l'Autriche. Mais Vienne est prête au bras de fer, selon Franz Marold, spécialiste du droit social européen.
80% des Autrichiens sont favorables à ces coupes dans les allocations familiales, donc sur le plan politique. Le gouvernement ne peut que gagner. C'est pourquoi ils prennent le risque de cette querelle judiciaire, qu'ils savent perdue d'avance, mais manifestement, ce gouvernement cherche la confrontation avec les institutions européennes, et ce pour des raisons politiques.
L'opposition dénonce un mauvais signal envoyé aux partenaires européens, alors que l'Autriche assure la présidence tournante de l'Union jusqu'à décembre prochain.
Isorias, correspondante de France Culture en Autriche. Il s'était d'abord vu interdire une sortie de Russie avant de pouvoir finalement quitter le territoire contre le paiement d'une amende. Alexeï Navalny, l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine, ne regrette pas son déplacement à Strasbourg puisqu'il a obtenu une victoire sans appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Non seulement la CEDH condamne une nouvelle fois la Russie, mais cette fois, elle reconnaît aussi le caractère politique des poursuites et arrestations dont l'avocat fait l'objet, Anya Vogel.
Il avait déjà obtenu la condamnation de la Russie pour violation de ses droits à la liberté, notamment liberté de réunion, détention arbitraire et procès inéquitable. Mais en première instance, en février 2017, la Cour n'avait pas retenu les motivations politiques dénoncées par Alexeï Navalny, le véritable harcèlement des autorités russes à son égard. Le militant anticorruption est donc revenu devant la Grande Chambre en janvier pour raconter les arrestations et incarcérations systématiques en marge de rassemblements contre le gouvernement. Ces restrictions poursuivaient un but inavoué, celui d'étouffer le pluralisme politique, estime cette fois la Cour. Une victoire pour l'avocat de 42 ans.
C'est un vrai jugement, une décision très équitable et je suis extrêmement satisfait que pour finir, la Cour reconnaisse la violation de l'article 18 dans mon cas, ce qui signifie que mes arrestations et persécutions étaient bien motivées politiquement. C'est très important, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes à travers toute la Russie qui se font arrêter chaque jour.
La Cour estime également que l'interdiction des rassemblements pacifiques et leur dispersion avec arrestation n'est pas légitime lorsqu'ils ne causent aucun trouble. Elle condamne la Russie à verser à Alexeï Navalny 50 000 euros au titre du dommage moral et plus de 1 000 euros pour dommage matériel. L'arrêt est définitif.
Anya Vogel à Strasbourg. Pas question d'une enquête internationale sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Riyad oppose une fin de non-recevoir à la demande de la Turquie. En revanche, le bureau du procureur général d'Arabie Saoudite a présenté sa version des faits concernant la mort du journaliste saoudien au consulat du royaume à Istanbul. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Aurélie.
11 suspects ont été déférés devant la justice et la peine de mort est requise contre 5 d'entre eux.
Oui, sur les 21 personnes suspectées d'avoir pris part au meurtre du chroniqueur du Washington Post, 11 sont donc d'ores et déjà inculpés, a annoncé cet après-midi le procureur général saoudien, et 5 encourraient la peine capitale. Selon ce même procureur, c'est le numéro 2 des services de renseignement saoudien, le général Al-Asiri, qui a envoyé une équipe d'agents à Istanbul pour y arrêter et ramener Jamal Khashoggi en Arabie Saoudite de gré ou de force. Mais c'est le chef de cette équipe qui aurait finalement donné l'ordre de tuer le journaliste, lequel, a confirmé le procureur, a bien été drogué, tué, puis démembré à l'intérieur même du consulat. Toujours selon le porte-parole du parquet saoudien, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, n'aurait eu aucune connaissance de l'opération. Des inculpations et des explications insuffisantes a immédiatement réagi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, pour qui il s'est agi non pas d'une opération d'enlèvement qui aurait mal tourné, mais bel et bien d'un meurtre, qui plus est prémédité, l'équipe d'agents saoudiens ayant par exemple débarqué à Istanbul avec des outils de chirurgie permettant de démembrer le corps du journaliste. Mevlüt Mevlut Çavuşoğlu a par ailleurs appelé à révéler les vrais commanditaires de l'opération visant, sans le nommer, le prince héritier saoudien. Il faut dire que parmi l'équipe saoudienne d'Istanbul et les inculpés de ce jeudi figurent des hommes par ailleurs connus pour être des officiers de sécurité directement attachés au prince héritier. Deux d'entre eux font d'ailleurs partie des 17 saoudiens frappés aujourd'hui par des sanctions du Trésor américain car impliqués dans le meurtre du journaliste. Quant au général Al-Asiri, c'était jusqu'à ces derniers jours l'un des plus proches collaborateurs de Mohamed Ben Salman.
Eric Biegela, le rapatriement des réfugiés Rohingyas au Bangladesh vers la Birmanie devait commencer aujourd'hui. Il a été annulé. L'ONU avait déjà condamné cette opération de rapatriement, mais le Bangladesh assurait que les personnes étaient volontaires pour rentrer. Or, les conditions de vie des Rohingyas ne se sont pas améliorées en Birmanie depuis que plus de 700 000 d'entre eux ont fui l'année dernière. Sébastien Farcy a rencontré Mayu Ali, un Rohingya qui a manifesté contre le rapatriement. Il raconte l'angoisse de sa communauté.
Quand les UNHCR guys and the tribal RC guys went with the long bus. Nearby the bus, people were gathered and there were protests.
Quand les personnes du HCR et des autorités bangladaises sont arrivées avec le grand bus, une manifestation a éclaté. Et personne n'a accepté de les suivre. En fait, beaucoup de réfugiés concernés ont fui le camp avant qu'ils arrivent, par peur d'être forcés à rentrer. Les réfugiés réclamaient deux choses. Que la Birmanie leur offre la citoyenneté et que la loi de 1982 soit modifiée pour reconnaître tous les Rohingyas comme des Birmans. Les autorités ne les ont pas forcés à prendre le bus, car il y avait beaucoup de journalistes présents. Mais la peur est là. Ça fait une semaine que les gens changent de camp pour se cacher. Et même si le rapatriement n'est pas arrivé aujourd'hui, nous craignons que le gouvernement essaie de forcer les réfugiés à partir bientôt. Tant que la communauté internationale et les médias font pression, ça peut être évité. Mais sans cela, nous ne savons pas ce qui arrivera.
Mayu Ali, réfugié Rohingya, au micro de Sébastien Farcy, le correspondant de France Culture et RFI dans la région. L'ancien secrétaire d'État Georges Tron est acquitté. Le maire de Draveil et son ancienne adjointe à la culture, Brigitte Gruel, étaient accusés par deux ex-employés municipales de viol et agression sexuelle. Georges Tron clamait son innocence et criait au complot politique. Finalement, Florence Turme, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a acquitté les deux accusés, jugeant que les plaignantes n'avaient pas apporté de preuve de la contrainte.
Aux 19 questions sur la culpabilité, la cour a répondu non et le président fait aussitôt taire les applaudissements qui saluent l'acquittement de Georges Tron et Brigitte Gruel. Le jury a estimé les éléments à charge insuffisants, le doute profite aux accusés et Georges Tron quitte la salle sans un mot derrière son avocat Éric Dupond-Moretti.
Cet acquittement, il était espéré, il était attendu. C'est l'illustration une fois encore que la justice n'est pas la justice médiatique, où Georges Tron a été... condamné dans des conditions inadmissibles durant 7 ans, privé de la possibilité de poursuivre sa carrière. La cour d'assises a rendu une décision motivée. Franchement, ça n'est pas une victoire de la défense, c'est aujourd'hui une victoire de la justice.
Le président Philippe Couard prend le temps de lire les motivations du verdict. Il existait bien un climat hyper sexualisé entre Georges Tron et plusieurs de ses collaboratrices. Les scènes sont avérées, mais les faits dénoncés ont été écartés. En l'absence de menaces, violences ou surprises, la contrainte, élément nécessaire pour caractériser l'agression sexuelle, n'est pas démontrée. La cour estime aussi que les plaintes déposées répondent à une logique de vengeance. Dans la salle, Virginie Etel, l'une des deux plaignantes, est prise d'un malaise. Son avocat, Vincent Olivier, souligne les incohérences de ses motivations.
Après avoir reconnu, avéré des relations sexuelles particulières et une atmosphère sexualisée au sein de la mairie de Draveil, ce que M. Georges Tron a toujours nié, les motifs, j'ai du peine à les appeler véritablement comme cela, qui sont retenus pour prononcer l'acquittement de Georges Tron, m'apparaissent scandaleux. J'attends donc que le parquet général fasse appel et j'ai confiance dans cette logique judiciaire que je viens d'exposer.
Le parquet qui avait requis des peines de prison ferme a désormais 10 jours pour faire appel de cet acquittement.
Florence Turme au palais de justice de Bobigny. Plusieurs centaines d'avocats et de magistrats se sont rassemblés ce midi près de l'Assemblée nationale pour dire leur opposition au projet de réforme de la justice. Le texte doit être examiné lundi par les députés. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Ce matin sur notre antenne, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a défendu cette loi. Selon elle, elle permettra d'avoir une justice mieux financée, plus rapide, plus proche. Les manifestants que vous avez rencontrés n'en sont pas du tout convaincus.
Oui, des manifestants très inquiets ce midi, vous les entendez. Des avocats et des magistrats venus des quatre coins de France, comme Maître Olivier Gilliard, bâtonnier du barreau d'Avesnes-sur-Helpe.
Nous sommes un petit barreau, 35 avocats, une petite juridiction, et le tribunal a son implantation historique au sein d'Avesnes-sur-Helpe, et nous craignons effectivement que ce palais de justice ne soit qu'une coquille vide, et que du coup ça fasse disparaître un pan de l'activité économique aussi de l'arrondissement, puisque si le tribunal doit, pour une raison ou une autre, partir ou être délocalisé, il y a l'activité économique naturellement des avocats qui partira, avec elle la disparition d'un certain nombre de postes de travail, et c'est toute une activité économique locale qui va malheureusement disparaître.
Alors Nicole Belloubet a tenté de rassurer la profession ce matin sur France Culture. La garde des Sceaux a expliqué que le texte qu'elle propose n'est pas une loi d'économie mais de transformation de la justice. Elle précise que le budget de la justice sera augmenté de 25% sur 5 ans. Le texte prévoit également la dématérialisation de certains actes de procédure, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance ou encore la création de 7000 places de prison. Maître Ariane Rorik-Sarret est avocate au barreau du Havre. Elle porte avec trois autres collègues un cercueil qui symbolise la justice française.
Il n'y a toujours pas de moyens alloués à la justice pour les tribunaux et les juges. La majeure partie du budget va être attribuée aux établissements pénitentiaires. Et aujourd'hui, la justice est en crise. Désormais, avec ce projet de loi, la victime n'aura même plus de possibilité d'avoir l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne le dépôt de plainte, les délais sont allongés de 3 à 6 mois. Pour une réponse du procureur, c'est inadmissible, il n'y a aucune raison à ça. De même, on ne pourra plus saisir le juge directement. Si le procureur classe ensuite, il faudra pour la victime faire un recours hiérarchique devant le procureur général. Pourquoi refuser aux victimes le bénéfice de l'aide juridictionnelle ? C'est inconcevable.
Les professionnels de la justice ont donc tenté de faire entendre leur sifflet ce matin près du Palais Bourbon, mais seuls quelques députés, notamment de la France Insoumise et des Républicains, sont venus les soutenir.
Antoine Marette. 16 associations se mobilisent pour dénoncer la rétention des mineurs. Dans une lettre ouverte, elles appellent les parlementaires à mettre un terme à l'enfermement des enfants dont les parents sont en situation irrégulière. Mardi prochain, ce sera la Journée internationale des droits de l'enfant et la CIMAD, l'UNICEF, Amnesty International, entre autres, veulent sensibiliser les parlementaires en amont de la proposition de loi sur ce thème qui doit arriver avant la fin de l'année à l'Assemblée. Tara Schlegel.
Oui, au moment de la discussion et surtout du vote de la loi Asile-Immigration, certains députés macronistes n'ont pas réussi à faire passer leurs amendements visant à interdire cette rétention des enfants. Alors au printemps dernier, Laurent Boudier, notamment député de Gironde, membre de la majorité, a créé un groupe de travail sur la question et promis une proposition de loi. Texte d'autant plus urgent, disent aujourd'hui les associations, que le nombre d'enfants en rétention explose. Il est passé d'une quarantaine en 2013 à 305 enfants enfermés l'an passé en métropole. Avec pour conséquence de vrais traumatismes, rappelle David Rohi, qui s'occupe de 7 centres de rétention pour l'association La CIMAD.
Un enfant qui est enfermé en centre de rétention et avec ses parents, c'est d'abord une interpellation policière, éventuellement un menottage, une famille avec des enfants qui est escortée dans un véhicule de police, puis une arrivée dans un lieu qui est un lieu vraiment d'enfermement avec des barbelés, des caméras, des policiers partout, d'autres personnes enfermées, des centres de rétention qui aujourd'hui connaissent des tensions, une situation complètement explosive dont ces enfants peuvent être témoins. Par ailleurs, aujourd'hui, la majorité des préfectures en France n'utilisent pas les centres de rétention pour expulser les familles. Donc clairement, ça veut dire qu'il est possible de faire autrement. On a nombre de pays européens qui procèdent également sans enfermer les familles avec enfants. Ça a été le cas longtemps de la Belgique, c'est le cas d'Irlande. L'Allemagne ne procède pas non plus à l'enfermement d'enfants à notre connaissance. Donc c'est tout à fait possible.
Alors si les autorités souhaitent expulser des familles, on peut par exemple les assigner à résidence au lieu de les enfermer dans un centre de rétention. Ajoutons qu'à Mayotte, le nombre d'enfants mineurs placés en rétention n'est pas de 305 comme en métropole, mais de 2500. La France a déjà été condamnée 6 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses pratiques jugées indignes.
Tara Schlegel, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, apporte son soutien à titre personnel à une proposition de loi contre les violences dites éducatives, bientôt examinée par les députés. Je crois qu'il n'y a aucune violence éducative, il n'y a pas de petite claque, déclare Marlène Schiappa. Le texte porté par Maud Petit du Modem est co-signé par des élus d'autres groupes, poursuit un objectif pédagogique et ne prévoit pas de sanctions pénales. Le Goncourt des lycéens est décerné au romancier David Diop pour Frères d'âme, paru aux éditions du Seuil. Un livre qui rend hommage aux combattants de la Grande Guerre et notamment aux 200 000 Africains ayant alors combattu dans l'armée française. Demain, la grisaille restera tenace au nord de la Seine. Dans l'après-midi, des éclaircies se développeront entre le sud-ouest et le nord-est. Les minimales s'échelonneront entre 0 et 15 degrés, maximales comprises entre 8 et 14 de l'Alsace à la Bretagne, entre 14 et 19 plus au sud. Ce journal était préparé avec Brice Garcia.